Et à 15h03, bientôt 4 plutôt, sur France Inter, oui. On est toujours avec Denis Chessoux et oui. Avec Bernard Werber.
Ben voilà, hein, on a tous été shootés aux fourmis, entre autres choses, des thanatos, etc. Donc Bernard Werber, la voix de la Terre, donc, est avec nous et avec ses cartes routières. Merci Maxime, on vous retrouve à 16h.
France Inter, nature à la carte, Denis Chessoux.
Suite de cette balado-thérapie avec les cartes routières, cette fois-ci les cartes de vie de Bernard Werber qui est avec nous. Bonjour Bernard Werber.
Bonjour.
Moi, ça me rappelle une émission qu'on avait faite, je ne sais pas, aux années 90 ou 91. C'était le petit matin et alors vous commenciez à peine à vendre quelques livres et ça s'appelait les fourmis.
À l'époque, j'avais des cheveux.
À l'époque, vous avez... Ah oui, je pensais pas à ça. Oui, effectivement. Bon, donc vous êtes un homme, on va dire, qui est haletant, plein d'autodérision. D'ailleurs, ça se voit. Gentiment barré avec une pincée parfois de New Age. Ah ben non, vous n'êtes pas barré, c'est pas possible. Sinon, c'était voilà.
J'assume le côté New Age.
Mais totalement, bien sûr. Vous concoctez dans vos alambics des histoires, alors à la fois qui peuvent être policières, d'anticipation, de quêtes spirituelles, vous aussi, avec plein de rebondissements. Vulgarisation de vrais problèmes scientifiques. Alors vous faites un lien direct avec le public sans forcément, on va dire, passer par la case média, hein, c'est comme ça. Et vous êtes surtout un véritable créateur d'univers. Voilà. Et alors on va commencer avec vous, cette balade. On a pas mal parlé de Toulouse. On a parlé de Toulouse l'autre jour avec Christian Laborde. Et aujourd'hui, allez, plan de Toulouse, tranquillement, la carte que nous connaissons, et on va ouvrir le plan parce que 1961, il y a un joli petit bébé de 3,4 kg qui naît, voilà. Et donc vous y restez quand même pas mal d'années à Toulouse.
Oui, 20 ans quoi.
20 ans.
20 ans, le temps de prendre racine et puis de comprendre qu'une fois qu'on a pris racine, il faut envoyer le pollen en dehors de l'arbre. Ouais. Et c'est pas à Toulouse que j'ai vraiment déployé mes ailes, c'est plutôt à Paris. Mais c'est là en tout cas où je suis né et où j'ai planté mes racines.
Mais de toute façon, pour déployer ses ailes, il y a déjà Airbus qui s'en occupe, donc tout va bien. Voilà. Et si je vous dis Isidore.
Ah, alors Isidore. Bah, Isidore, c'est mon grand-père qui, en 1900, venant de Pologne, s'est dit bon, la Pologne, ça va, ça ira comme ça. Et il a traversé toute la Pologne d'est en ouest et il est arrivé à Toulouse. Je crois qu'il était épuisé, il n'avait plus de sous, il s'est arrêté à Toulouse et là, il est devenu photographe. Et c'est lui qui a fondé, on va dire, la famille, qui a planté la graine familiale à Toulouse. Et c'est lui qui a construit un tout petit peu la structure. Et mes parents, après, ont hérité d'un magasin de vêtements qui était à Toulouse, qui s'appelait les Vêtements Silva. Dans la devise était un vêtement Silva vous va.
Oui, voilà. Et super. Oh,
ça oui. C'est du slogan.
Ça c'est du slogan, ça y va. Ça.
Mais ça de 1900.
Un vêtement Silva, il vous va.
Voilà. Oui, oui. Un petit spécialisé. Enfin, mes parents et mes grands-parents avaient trouvé un truc. C'était les vêtements pour femmes fortes. Donc on était le seul magasin qui proposait des vêtements pour les personnes un peu grosses.
Oui, voilà. un peu ronde, mais c'est pas.
On est loin de la littérature, on est loin de l'aventure, mais
attendez,
racines.
C'est justement le principe de ces cartes routières. Et puis alors, il y avait votre arrière-grand-père polonais, donc qui s'appelait Bernard.
Oui.
Qu'est-ce qu'il faisait, lui?
Alors, c'est une histoire qu'on m'a racontée. Donc, si je m'appelle Bernard, c'est en hommage à ce grand-père qui vendait des traîneaux en Pologne, dans une région qui maintenant... je crois, a été bouffé par l'Ukraine, enfin, qui est à cheval, ça s'appelle la Galicie. Et un jour, un de ses amis qui lui a demandé des bottes, parce qu'il y avait de la neige, il faisait froid, il a passé ses bottes, mais il a oublié que lui-même, du coup, n'avait plus rien pour marcher, il est rentré pieds nus et il est mort de froid dans la nuit.
Mais c'est-à-dire qu'en fait, il a donné ses bottes à quelqu'un?
Ouais, voilà. C'est le moment, il faut d'abord penser à soi avant de penser aux autres. À lui, il s'est dit d'abord je rends service et après je vais réfléchir comment je me débrouille. Donc voilà, il est mort. Mais de toute façon, on meurt tous un jour, mais c'est une manière un peu, comment dire, un peu bizarre. Voilà. Alors... Donc du coup, c'est tout ce que je sais de Bernard Werber. Le premier Bernard Werber, c'est qu'il a donné ses bottes et qu'il vendait des traîneaux.
Bon, et alors si on revient sur Toulouse, là nous avons ce plan de Toulouse, on a le Capitole, on a la rue Lafayette.
Alors moi j'étais précisément place Saint-Étienne, c'est-à-dire je suis né rue des Trois Banquets. Ouais. C'est une toute petite rue tortueuse à côté de la place Saint-Étienne, et toute mon enfance a été bercée par les cloches de la cathédrale Saint-Étienne. Mmh. Et donc j'ai intégré, parce qu'il faut voir une chose, avant, quand les gens n'avaient pas de montre, ils savaient l'heure par les cloches. Donc moi, j'ai intégré ça inconsciemment, le bruit des cloches qui me signale les quarts d'heure, les demi-heures, les trois quarts d'heure et les heures. Et tous les soirs, voilà. Ouais, c'est ça, vous les entendez. Et quand j'avais des insomnies, j'entendais comme ça toutes les heures les cloches, parce que la nuit, ça continuait aussi.
Et Pierre, vous entendiez les cloches, mais aussi maman qui faisait du piano. Je ne sais pas, oui, si c'est votre vocation de non-musicien est née de là, mais...
Alors, ma mère était prof de piano, elle m'a collé au piano à 6 ans. Il s'avère, je ne sais pas pourquoi, mais le piano est un instrument, on va dire, où les professeurs sont un peu raides. C'est-à-dire qu'ils nous obligent à faire des exercices. Il y a une discipline autour du piano qui est très insupportable. Moi, je suis réfractaire à toute forme.
Vous écrirez directement à Bernard Verbeek. Vous ne passez pas par moi. Hein, si vous êtes prof de piano, vous écrivez directement. Mais je ne suis pas raide. Qu'est-ce que j'entends à la radio?
Mais voilà. Je ne sais pas pourquoi. Et bien plus tard, j'ai découvert la guitare. Et oui, la guitare, c'est le contraire. Les profs de guitare sont toujours cool. Et oui, les profs de piano sont toujours straight, pour prendre deux expressions anglaises. Mmh. Et j'ai rencontré d'autres profs de piano, je leur ai dit, mais pourquoi vous y a ça? Et je crois que c'est l'instrument lui-même qui inspire la discipline quasi militaire. Alors que la guitare, c'est plutôt on chantonne. D'ailleurs, en général, quand quelqu'un joue du piano, tout le monde se tait pour l'écouter. Alors que quand on joue la guitare, tout le monde tape dans les mains, se met à chanter. Donc c'est un instrument un peu plus convivial.
Mais vous ne vous réfugiez pas forcément sous le piano, mais où est-ce que vous alliez vous réfugier quand vous étiez petit, Bernard Verbeek?
Alors, parmi les premiers souvenirs, c'était la machine à coudre Singer de ma mère. Et je me rappelle, j'ai souvenir, je marchais à quatre pattes et je me disais, un jour j'arriverai à marcher sur deux pattes et j'arriverai à atteindre les poignées de porte. C'est marrant, ce souvenir est très précis dans ma tête, parce que j'avais une grande sœur, je voyais, elle arrive à choper les poignées de porte et moi j'y arrive pas. Et donc oui, non, je traînais dans la machine à coudre de ma mère, en essayant d'éviter le petit plateau. Elle disait, t'approches pas, tu vas te faire pincer les mains dans le plateau.
Oui, on se fait avoir une fois, puis peut-être pas, voilà, pas deux.
Je sais pas pourquoi, j'ai souvenir de la prime enfance, très précis. Je me rappelle la première fois où je suis arrivé à m'habiller tout seul, la première fois où... je me rappelle quand je montais sur la chaise haute où on me servait un lait chaud. Mmh. Une fois, j'avais renversé ça, j'avais moins d'un an. Et souvenir très précis de ça.
Bon, écoutez, moi, je vous offre un verre d'eau froide. Comme ça,
merci,
vous ne ferez pas de bêtises. Et puis, on se retrouve dans quelques instants. On va poursuivre ce voyage à Toulouse. Et on va
plaisir
aussi vous emmener au pays du pastel.
Mes bas, tes ébassages, mes yeux, tes mains sauvages, mes doigts, tes beaux rivages, mes mots, tes lèvres douces, mes hanches, tes caresses, mes cris, tes maladresses, mes regards, tes promesses, mes mots, tes lèvres douces, mes humeurs, tes heures, mes bonheurs, ta sueur, ma candeur, tes ardeurs, mes mots, tes lèvres, mes ordres, tes désirs, mes pulsions, tes sourires, mes fantasmes, tes souvenirs, mes mots, tes lèvres douces, ma gorge, tes sanglots, mes griffures, ton dos, ma loi, tes idéaux, mes mots, tes lèvres douces, mes rêves, tes chimères, mes formes, tes frontières, mes murmures, tes prières, mes mots, tes lèvres douces, mon désarroi, tes reins, ma soif et puis tes mains, mes insomnies, tes lendemains, mes mots, tes lèvres douces, mes rondes, tes silences, mes pauses, tes cadences, mes reprises, tes danses, mes mots, tes lèvres douces, mes lueurs, tes espoirs, mes droits et tes devoirs, courbes, tes déhanchées, mes souffles, tes touchés, mes mots, tes lèvres douces, mes envols, ton miel, mes ailleurs, ton ciel, mes échappées, tes belles, mes mots, tes lèvres douces, mes couches et tes soleils, mes câlins.
tes éveils, mes mots, tes lèvres douces, ma peau, ton firmament, ma voix, tes hurlements, mes reins, tes océans, mes mots, tes lèvres douces, mes roses, tes fleurs du mal, mes ruses, ton cœur s'emballe, mes rires à ton carnaval, mes mots, tes lèvres douces, mes ponts et tes soupirs, mes monts et tes merveilles, mes fronts et tes batailles.
Chanson sensuelle et romantique, mais oui, c'était Laurie Darmon, mes mots, tes lèvres douces.
Mesdames, Messieurs, il est 15h35, Paris latin, Toulouse, pardon. La température est de 13 degrés. Le commandant de bord et son équipage vous souhaite une excellente journée. Au revoir et à bientôt.
Eh bien, à bientôt. Merci beaucoup. Et ben voilà, nous sommes toujours à Toulouse avec Bernard Werber, donc son enfance pendant une vingtaine d'années, le grand-père Isidore, la maman qui faisait à la fois de la machine à coudre et qui appuyait aussi sur les pédales du piano, voilà. Le magasin de vêtements, avec ce slogan merveilleux. Et puis, ce que vous avez de plan, là, tenez, vous avez oui. Ça. Alors, on voit la place, donc, Saint-Étienne.
Place Saint-Étienne. Mais en fait, je passais tous mes étés, parce que je supportais mal les colonies de vacances, donc je préférais rester avec mes grands-parents, rue Louis Blanc, à la Côte Pavée. Et c'est là où je me suis aperçu que le truc sympa dans le jardin, parce qu'il y avait un grand jardin, c'était les fourmis. Et je suis resté très longtemps à les observer, puis à vouloir les mettre au début dans des cartons à chaussures, puis dans des bocaux. Et j'essayais de comprendre, je prenais des notes, j'essayais de comprendre qu'est-ce qui se passait dans ce qui me semblait être une ville dans laquelle il y avait des routes, il y avait des gens qui bossaient, et je pouvais ramener cette ville entière dans ma chambre et l'observer. Et là, j'ai commencé à prendre des notes sur ce que je voyais. Je voyais qu'il y avait des... Comment dire ? D'abord, il y avait des fourmis qui bossaient et des fourmis qui foutaient rien.
Je crois contrairement, qu'il y en a un tiers, ce que j'ai appris l'autre jour, qui ne faisait pas grand-chose.
En fait, c'est maintenant, je peux vous dire le vrai chiffre scientifique, c'est qu'il y en a un tiers qui foutent rien, il y en a un tiers qui font des choses inutiles et maladroites qui gênent tout le monde, et le dernier tiers répare les erreurs du deuxième tiers et compense le rien à foutre, le manque d'activité du premier tiers. Donc c'est un peu, ça correspond presque à nos sociétés humaines. Il y a un tiers qui tire l'ensemble du système. Mais la fourmi n'est pas.
Un tiers qui glande, un tiers qui bosse.
Puis la fourmi n'est pas spécialement intelligente, elle n'est pas spécialement travailleuse. C'est un animal juste qui communique bien, qui est bien organisé et qui a des leçons, selon moi, à nous donner. Et c'est pour ça que j'ai commencé à écrire des petites histoires dessus.
Puis on va y revenir. Mais là, on a Marc Giraud en ligne. Bonjour Marc Giraud.
Bonjour.
Voilà, Marc Giraud, vous étiez notre premier invité dans Nature à la carte pour la première heure.
Je m'en souviens très bien.
Bien sûr, il n'y a pas si longtemps, j'espère que vous vous en souvenez. Et puis, non, mais ça nous intéresse bien d'avoir aussi votre regard, vous, sur les fourmis, qui a quand même été évidemment le premier tube, si j'ose dire, de Bernard Werber. Et parlez-nous quand même des fourmis les plus extraordinaires, Marc, s'il vous plaît.
Alors, il y en a, mais on a peine à croire que c'est vrai. Il y en a, par exemple, qui sont kamikazes dans les forêts de Malaisie. Elles sont hargneuses, celles-là. Quand elles voient un ennemi, elles s'y accrochent avec les mandibules et elles contractent leurs muscles un peu genre j'arrête de respirer et j'explose. Et elles explosent. Elles ont des glandes toxiques qu'elles répandent. Comme ça, elles font bombes, pas humaines, mais bombes fourmis. Et ce sont vraiment des fourmis explosives. Par exemple, il y a des fourmis outres. Alors ça, c'est autre chose. Ce sont des fourmis qui font réserve de liquide pour les autres. Donc elles sont énormes pour des fourmis.
Pour un miel. Ouais.
Et ça, c'est dans le désert australien. Et les aborigènes savent où les trouver, et c'est comme un petit grain de raisin, c'est comme des petits bonbons qu'ils trouvent dans le désert.
On en trouve aussi en Afrique et même en Espagne.
Ah, même en Espagne, ça je ne savais pas.
Donc, au fur et à mesure que... Enfin, dans tous les pays chauds, en fait. Et c'est servi même comme friandise dans plusieurs pays.
Bah, ça doit être sucré, un petit peu acide, ouais. Il faut. Hein.
Et puis dites-nous, Marc Giraud, si on clique sur la case moustique, quel est le rapport avec les fourmis ?
Alors ça, c'est du racket, carrément. C'est un moustique qui fait du racket sur les fourmis. Donc, il se met en travers de leur chemin. Il les tambourine avec les pattes et jusqu'à temps qu'elles régurgitent un petit peu de nourriture, parce que vous savez, elles ont toujours un petit stock pour faire la trophallaxie, échanger la nourriture. Et donc, si la fourmi refuse de donner d'être racketée, il les torture jusqu'à temps qu'ils y arrivent, quoi.
Oui.
Donc ça, c'est les mœurs des gentils moustiques, qui s'appellent Harpagomia. Voilà. Il y a les légionnaires, les fameuses légionnaires qu'on trouve en même temps en Afrique et enfin avec des genres différents en Amazonie, qui forment des bivouacs. Enfin, là, ce sont des armées. Elles fonctionnent pas du tout comme les autres en fourmilière. Elles sont nomades. Donc elles peuvent voyager pendant 2-3 semaines comme ça. Ce sont des colonies de dizaines de milliers de fourmis qui nettoient tout sur leur passage, y compris des vertébrés, quelquefois même des gros animaux. Hein. On a parlé d'un lion en Afrique, mais qui était en cage. Je ne sais pas si c'est exagéré, mais ça dévore tout ce qui bouge. Et d'ailleurs, dans les villages africains, de temps en temps, on les laissait faire parce qu'on savait quand elles étaient passées, c'était pas à peine de faire le ménage. Oui, tout était propre.
Excellente nettoyeuse.
Et derrière, en Amazonie, il y a toute une vie derrière. Ça, il y a des rondes d'oiseaux qui vont ramasser les cadavres d'insectes qu'elles ont laissés, enfin qui vivent depuis derrière derrière ces colonies de fourmis. En fait, c'est une sorte d'écosystème mouvant et ces petits oiseaux fourmiliers suivent les fourmis à longueur de temps.
Écoutez, un grand merci Marc Giraud de nous avoir présenté ces différentes fourmis. On vient revenir parce que Bernard Verber donc est allé aussi en Côte d'Ivoire. On va rester nous un tout petit peu sur Toulouse quand même, parce que là on a les berges de la Garonne. Ah bah tenez, on a la place Saint-Cernin. Là c'était le marché aux puces, je crois, tous les dimanches matin pour vous.
Oui, c'est ça. Oui, et aussi j'allais jouer à l'orgue de l'église Saint-Cernin.
Ah ouais.
Parce qu'une fois, je me suis dit, tiens, il y a un type là-haut qui joue. Je suis allé le voir, on a discuté, il m'a dit, si vous voulez, je vais vous apprendre un morceau. Il m'a appris la toccata de Bach. Donc j'ai pu jouer la toccata sur l'orgue de Saint-Cernin. Et j'ai découvert la vie de ce type. Il vivait en fait des troncs, c'est-à-dire l'argent que mettent les paroissiens,
ah oui, paroissiens
pour l'orgue. Et il vivait en vase clos. C'est-à-dire qu'il ne sortait pas de son truc. Il était lié à son orgue.
Ah d'accord. Il était scotché alors. Quand même. Non, mais ça va être intéressant.
Ouais.
Psychologiquement,
et puis, j'avais créé un journal qui s'appelait Euphorie, qui était juste à côté, et on le vendait au lycée Saint-Cernin et au lycée Ozène.
Ah, attendez,
qui était...
le lycée Ozène, c'est-à-dire qu'on est à côté de Saint-Cernin. C'est
voilà,
ça,
c'est juste à côté.
C'est ce que l'on voit là. On prend la route et ça marchait. Donc c'était les premières nouvelles, ça ?
C'est le premier moment où je me suis mis à écrire et à être publié. J'avais 15 ans, j'avais créé un journal de lycée. Et l'idée, c'est de faire la bande dessinée musicale odorante. À savoir, pour chaque histoire, on mettait une musique à écouter. On était un groupe, on était trois. Il y avait Fabrice Coget. Et chaque fois, on fabriquait un parfum. C'était les usines Berdouze de parfum qui m'avaient formé comme organiste à parfum. Et parce qu'on appelle ça aussi des orgues à parfum.
Ouais.
Et pour chaque histoire, je mettais l'odeur de l'histoire. Et j'ai toujours voulu fabriquer les parfums de mes récits. Malheureusement, il n'y a pas d'intérêt de l'édition pour ça. Mais moi, je trouve qu'on ne traite pas assez le sens olfactif. On privilégie la vue, 80%. L'oreille, mais très peu le nez. Or, c'est l'un des premiers sens du nouveau-né.
Donc,
c'est
le premier roman olfactif, bientôt, sera signé Bernard Verber.
J'ai déjà
certain.
Fait des bandes dessinées olfactives. Voilà, j'ai des scénarios de bandes dessinées olfactives.
Alors, moi, je vais vous proposer de parler d'une plante. Alors, elle n'est pas tellement olfactive, mais elle est drôlement intéressante parce qu'elle est tinctoriale. C'est le pastel. Vous êtes un homme qui aimait les couleurs, la construction des couleurs, et peut-être le bleu d'ailleurs, Bernard Verber.
Oui, en même temps qu'elle parlait, elle dit que ça existait depuis longtemps, mais il faut savoir que chez les Romains, la couleur bleue n'existait pas, parce qu'ils considéraient que le bleu était une sorte de vert. Donc quand ils regardaient le ciel, ils considéraient que c'était un vert qui tourne vers une autre couleur, mais le mot bleu n'existait pas. Et il faut voir que tout le monde latin était autour de la couleur rouge. Donc il y a eu un moment... une division de la France entre les zones qui aimaient la couleur bleue, donc le sud, et les zones qui aimaient la couleur rouge, le nord, l'Alsace. C'est étrange comment une couleur peut en fait révéler une mentalité. Et actuellement, je crois que la couleur préférée des Français, c'est le bleu. Donc ça montre bien qu'il y a une victoire de cette couleur-là.
C'était Jaakko Eino Kalevi, double taux, qui viennent du Nord. Je ne sais pas s'ils sont finlandais, danois, cercle polaire, je ne sais pas. Mais c'était extrait de notre playlist et nous sommes toujours avec Bernard Werber. Je peux vous annoncer qu'au mois d'octobre, le prochain livre de Bernard Werber va sortir. Il va s'appeler Le sixième sommeil. Je n'ai pas beaucoup de mérite parce que Bernard vient de me le dire, mais le titre a été décidé il y a 3 jours. Donc c'était voilà. Ça.
Ah oui, vous êtes les premiers. Enfin, tu es le premier. Non, vous êtes, premier à l'annoncer. Ouais, parce qu'on hésitait longtemps sur le titre. Et puis là, je viens de recevoir la couverture ce matin. Tout ça est très frais, et très neuf.
Sur les rêves éveillés, le sixième sommeil.
Le rêve lucide, sur les gens qui arrivent à maîtriser leur capacité de rêver pour choisir le film qui vont se passer dans la tête avant de dormir. Mais c'est une technique, ça s'apprend. Et moi, j'ai découvert cette technique auprès d'un peuple de Malaisie qui s'appelle les Senoi, qui maîtrisent leurs rêves et qui passent toute leur journée à commenter leur nuit. Donc pour lequel, c'est un peuple pour lequel la nuit est plus importante que le jour. Je trouvais ça extraordinaire, donc j'avais fait un roman.
Ils font une psychanalyse active en quelque sorte.
En permanence. Et il n'y a pas de fou, il n'y a pas de crime, c'est un peuple qui va bien, si ce n'est qu'il accorde pas beaucoup d'importance à leur activité du jour et énormément d'importance à leur activité de la nuit. Et le passage à l'âge adulte se fait par le rêve d'un combat ou par le rêve de la sexualité. S'ils ne rêvent pas de ça, on considère qu'ils restent enfants. C'est extraordinaire. Et surtout, ça peut être une voie pour nous, pour maîtriser notre conscience. On parlait tout à l'heure de conscience. Ouais. Quand on rêve, on se reconnecte à sa racine, à ce qu'on est vraiment. On est déconnecté de toute influence. Donc c'est pour ça que je trouve important de noter ses rêves, d'essayer de maîtriser ses rêves, et peut-être de se dire que c'est peut-être un art et une science à venir qui est en train d'apparaître et sur lequel on va pouvoir faire des choses extraordinaires dans le futur puisque c'est une science balbutiante.
Et avec une future carte des rêves que l'on pourra emprunter. Et alors là, on a ouvert un atlas, on se retrouve en Côte d'Ivoire. On saute en fait de Toulouse à la Côte d'Ivoire et donc là, vous avez fait vos études de journalisme, études aussi de droit et puis de criminologie où je crois que vous avez fait ça. Et alors, vous vous retrouvez en Côte d'Ivoire là.
Non, parce que j'ai fait une école aussi de journalisme et dans cette école de journalisme, il y avait un prix de la meilleure idée de reportage et j'avais proposé de suivre les fourmis magnans qu'évoquait Marc Giraud tout à l'heure en Côte d'Ivoire. En fait, en Amazonie, mais il s'avère qu'il y a eu tout d'un coup une disponibilité, une équipe scientifique qui allait suivre toute une colonne de fourmis magnans en Côte d'Ivoire. Et donc j'ai eu le prix, ils m'ont donné l'argent pour que je parte là-bas, j'ai acheté rapidement un appareil photo, ça s'est fait du jour au lendemain, et je débarque en Côte d'Ivoire, notamment au centre écotrope de Lamto, qui est en plein territoire baoulé, et en fait qui est en pleine jungle. Il n'y a pas de route, c'est une piste qui amène à ça, il n'y a pas de flics, il n'y a pas d'asphalte. Je m'en suis retrouvé dans une tribu de la jungle, à vivre avec eux, et ça a été une expérience extraordinaire, puisque donc on était là surtout pour suivre les fourmis magnans. Les fourmis magnans, c'est un ruisseau, un fleuve noir d'êtres vivants qui détruisent tout sur leur passage. Et on se sent une petite chose, vous savez, quand ces fourmis avancent. Et j'ai eu l'étrange privilège, en essayant de les photographier, notamment de photographier la reine, d'en être totalement recouvert. Et donc, je sentais tous ces êtres qui essayaient de me tuer. Et je vous rappelle, le professeur Leroux, qui dirigeait l'expédition, on a dit, fais attention qu'elle ne rentre pas dans les tympans, dans les trous de nez ou le trou du cul, parce qu'alors, elle creuse à l'intérieur. Et donc, je serrais les fesses, je me protégeais les oreilles, et j'essayais de me protéger le nez, de les sortir dès qu'elles approchaient du nez. Mais quand je suis rentré dans la fosse remplie de ces fourmis, je me rappelle, c'était une étrange sensation. En même temps, j'avais qu'une idée, il faut que j'arrive à attraper la reine. Et la reine était énorme. La reine, elle faisait la taille d'un doigt, alors que la plupart des fourmis faisaient 3 cm. Mais elles étaient des millions et des millions qui détruisaient tout sur leur passage. Et dans les villages partaient quand ce fleuve de fourmis avançait.
Mais vous savez que vous êtes mûr pour aller à Fort Boyard, vous
hein? Non, surtout pas. Quand on fait un reportage, peut-être que vous avez partagé cette expérience, on est focalisé sur... On a des photos à ramener, on a un interview à ramener, images, et on ne se dit pas, tiens, je suis peut-être en train de laisser ma peau dans cette expérience. Mais en tout cas, je crois que je me suis formé à cette initiation qui a été être couvert de fourmis et sentir je dirais, la conscience de la fourmilière et de tous ces êtres qui ont la possibilité de me détruire alors qu'ils sont tout petits.
Avant de partir pour la Corée du Sud, on va faire un petit tour à Cambrai. Alors là aussi, donc journaliste à cette période-là.
Ah, moi j'adorais le métier de journaliste, surtout que j'ai eu de la chance, je me suis retrouvé dans un groupe de 7 journalistes sur lesquels il y en avait 6 qui ne voulaient pas travailler. Donc je me suis retrouvé à faire toutes les pages.
Ah, c'est ça.
Donc, je faisais,
c'est la partie du tiers des fourmis qui ne bossaient pas, dont vous avez parlé tout à l'heure.
Bah, ils étaient un peu blasés, puis je crois qu'ils en avaient marre. Donc ils ont vu arriver le petit stagiaire, ils ont dit bon, bah, tu veux faire les mariages, tu veux faire les pompiers, tu veux faire les chiens écrasés, les réfractions de clochers, et même les enquêtes policières, les suicides de clochards, les accidents de voiture. Et moi, j'adorais ça. Je faisais mon petit reporter. En plus, je faisais les photos, c'est-à-dire j'avais ma voiture, j'arrivais sur le terrain, je faisais la photo. Et une fois que l'article était rédigé et publié, en plus, j'allais à la boulangerie où tout le monde me commentait l'article. Donc, c'est le vrai sens du métier de journaliste. C'est pas juste on lance une info, on sait pas où elle arrive. Là, j'avais le feedback en direct. Tous les matins, en prenant mon petit croissant, il y avait tout autour, tous les gens à la boulangerie qui me disaient « Ah ouais, on a aimé ça et pas ça dans tes articles et tout. » Et j'ai trouvé ce métier... Enfin, j'ai trouvé que ce métier avait un sens qui est réunir les gens autour d'informations qui vont leur permettre d'avancer. Ouais. Voilà.
Donc vous connaissez bien sûr Noyelles-sur-Escaut, vous connaissez...
C'était à Caudry surtout.
À Caudry, capitale de la dentelle.
Oui, c'est Caudry où j'allais souvent, parce que j'avais des amis. Et puis, alors il y avait un truc marrant, c'est que le maire m'appelait le matin pour me demander où j'allais. Et il se débrouillait pour aller au même endroit, pour être sûr d'être sur la photo dans la Voie du Nord.
Donc c'était à
la
Voie du Nord. Très bon, très bon. C'est, ça,
là,
oui.
C'est là que j'ai vu les collusions entre le système journalistique
système politique. Il n'y a jamais eu ça, c'est absolument impensable. On va partir en Corée du Sud, on change complètement de registre. Hop là, alors là, je quitte la carte, je prends l'Atlas et racontez-nous, parce que vous êtes allé la première fois en Corée du Sud, c'était en 1993.
Ouais.
Et vous ne saviez même pas, peut-être comme moi d'ailleurs aussi.
Je ne savais pas où c'était sur la carte.
Bah voilà, c'est ça.
J'ai découvert en suivant l'avion, vous savez, vous êtes dans l'avion, je fais le Paris-Séoul, et en fait, j'ai pensé que la Corée du Sud, c'était plus au sud en fait. Et en fait, vous pouvez poser la question, quels sont les pays limitrophes? C'est en fait la Russie. La Chine, c'est tout au nord de la Chine, et juste en face, il y a le Japon. Et la Corée du Sud est entourée de pays hostiles, et c'est une sorte de petit pays débrouillard dans lequel il y a une sorte de volonté de réussir qui est extraordinaire. Ils ont tout misé sur l'éducation des jeunes, ils lisent les livres, ils sont passionnés par tout ce qui est nouveau, et c'est vraiment un peuple qui est tourné vers le futur. Si on a des téléphones Samsung, des écrans Samsung, si on a tout le cinéma coréen qui est en train d'émerger, c'est pas un hasard. Ils ont une réelle volonté d'oublier le passé et d'être des leaders dans le futur. Et ils adorent la France et ils sont très ouverts. Contrairement au Japon où il y a un petit côté île, c'est-à-dire nous sommes loin de tout et nous voulons contrôler le monde, mais de loin, les Coréens, eux veulent s'intégrer au monde entier. Et il y a un esprit que j'adore. Chaque fois que je vais là-bas, j'aime bien ce côté allons de l'avant et réussissons. Ça serait bien qu'en France, on en prenne de la graine. Et de se dire, regardons le futur au lieu de tout le temps nous complaire dans le passé et d'avoir une nostalgie d'une gloire oubliée. Construisons une réussite future comme le font les Coréens.
Alors si on est à Séoul, je vous ai sorti un peu une photocopie du plan de Séoul. Il y a un canal aussi, vous aimez bien, qui traverse la vieille ville.
Oui, c'est un canal artificiel qu'ils ont créé. Et c'est un endroit charmant, romantique, sympathique. Ouais. Mais de toute façon, la Corée, c'est tous les avantages du Japon, plus les avantages de la Chine, plus tous les avantages de l'Orient, plus un côté tourné vers l'Occident, notamment, par exemple, ce qui est très surprenant, il y a beaucoup d'églises. Et ils sont très tournés vers la religion catholique et protestante. Mmh. Et ils peuvent parler de ça très longtemps, alors que normalement, on ne s'attend pas à qu'un pays aussi éloigné soit à ce point dans la culture de la Bible. Et ils sont réellement à la culture de la Bible. Et sinon, ce que je trouve extraordinaire, c'est que chaque fois que je vais dans les universités, je vois une jeunesse éveillée, curieuse de tout. Et on demande d'être nourrie d'idées nouvelles. C'est des gens qui cherchent tout le temps à être à la
Ils sont en appétit.
En appétit, voilà. Ils me demandent tout le temps d'où vient ma créativité, d'où viennent les idées. Et il y a un dialogue qui s'instaure. Et ils sont preneurs, ils sont à l'écoute. Ils sont pas en train, comme on est souvent en France, on est en train de juger. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal. Eux, ils disent, ah, c'est nouveau, donc c'est intéressant.
Non, mais vous êtes une éponge. C'est-à-dire que vous êtes quelqu'un.
Oui.
Non, parce que c'est ça. Parce que
non, mais je me nourris de la Corée et la Corée me nourrit.
Oui.
Mais je me nourris du monde. Le monde me nourrit. Et j'essaie de nourrir les gens. Je considère que. D'abord, je trouve que cette planète est extraordinaire. Je n'en ai pas visité beaucoup. Oui. Mais je trouve que la diversité de mentalité, de gens, d'animaux, tout ça, c'est fantastique. Et j'en reviens pas tous les jours de voir tout ce qui se passe ici. J'espère qu'on va tenir, que cette planète ne sera jamais détruite et qu'il y aura des gens intelligents pour la sauver. On va parler de ça tout à l'heure dans la conscience, mais
quand on lit, vraiment dans le désordre le plus total, les Thanatonautes, le père de nos pères avec l'apparition de l'homme sur Terre, le papillon des étoiles. On se dit que quand même, vous avez visité vous aussi d'autres planètes. Alors, est-ce qu'il n'y a pas un message que dans une autre planète peut-être, vous avez pris une route comme ça sur une autre planète, puis des gens vous ont dit, attendez Bernard Werber, voilà, nous on va essayer de te faire passer un petit message, et après tu vas essayer de le traduire pour tes amis humains.
Peut-être, mais vu que je ne sais pas trop d'où me vient mon inspiration, moi je me sens en effet comme un canal, c'est-à-dire je suis juste réceptif, et puis après je diffuse. Une fois j'ai rencontré une médium qui m'a dit, vous savez, vous venez d'une autre planète, avec votre planète, vous étiez parti, vous avez fait partie d'une sorte d'arche de Noé qui a quitté notre planète parce qu'elle était pourrie, et pour venir coloniser celle-ci. Alors j'ai dit, écoutez, je sais pas si c'est vrai ou c'est pas vrai, d'une certaine manière, je m'en fous, mais par contre je trouve que c'est une bonne idée pour faire au moins, ça a donné le papillon des étoiles. Ouais. J'ai imaginé qu'en fait, un jour, nous partirons dans un grand vaisseau spatial qui fera un voyage de plusieurs milliers d'années pour coloniser une autre planète. Mais vous savez, je m'amuse énormément dans ce métier parce que je crois qu'il faut que l'écrivain ou le créateur prenne du plaisir à faire son œuvre pour que le lecteur prenne du plaisir à la réceptionner et à lire. Il faut qu'autour de l'art, il y ait du plaisir. Moi, je ne crois pas à la littérature déprimée, à la littérature angoissante, à la littérature qui fait qu'on a juste envie de se suicider. Je crois plutôt à la littérature qui donne envie de bâtir un monde nouveau,
de faire des voyages. Il y en a pas mal comme ça, des bouquins. Là. Vous parlez de certains romans qui sont...
C'est une mode en France. On aime bien se flageller. Ouais. Mais bon, on peut prendre un temps pour se faire du mal. Et oui. Prenons un autre temps plaisir. Pour se faire du bien. Et moi, je trouve que la littérature d'idées, la tradition de Jules Verne a un peu disparu. La tradition de conquête de nouveaux territoires, et j'essaie de la faire revivre à travers mes livres, et j'espère que d'autres le feront aussi.
Jules Verne, c'était un type d'ailleurs qui était assez formidable, parce qu'il a été de mémoire comme ça quand même, avec 20 milieux sous les mers, il a inventé le sous-marin électrique avant que cela n'existe, et ça a été possible après, donc il a devancé presque les scientifiques.
Oui, mais c'est pour ça qu'en fait la science-fiction a pris sa source en France et que c'est dommage de laisser ça aux Anglais et aux Américains. Ouais. On a des gens aussi comme Pierre Boulle qui a fait La planète des singes. On a des gens comme Barjavel qui sont formidables, qui malheureusement sont plus connus souvent à l'étranger qu'en France, tout simplement parce qu'on a décidé que la science-fiction, ça ne nous intéressait pas. En fait, c'est comme si en France, on avait décidé que le futur ne nous intéressait pas et qu'il n'y a que les livres historiques et ce que j'appelle les livres contemplatifs de la société parisienne moderne. Qui ont droit au chapitre. Et c'est vraiment dommage pour les lecteurs. Parce que les lecteurs, je crois, ils ont envie d'évasion, ils ont envie de voyager.
On va partir en Inde juste après Tom Jones. It's not unusual to be loved by anyone. It's not unusual to have fun with anyone. But when I see you hanging about with anyone, it's not unusual to see me cry. I wanna die. It's not unusual to go out at any time. But when I see you out and about, it's such a crime. If you should ever wanna be loved by anyone, it's not unusual, it happens every day. No matter what you say, you'll find it happens all the time. Love will never do what you want to do. Why can't this crazy love be It's not unusual to be mad with anyone. It's not unusual to be sad with anyone. But if I ever find that you've changed at any time, it's not unusual to find that I'm in love with you. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh bah oui, on va l'aider. Hein. Tom Jones sur France Inter. Vous écoutez bien Nature à la carte. C'est la partie carte avec Bernard Werber avec nous. On va partir en Inde. Ah, alors là, intéressant. On est peut-être au bord du Gange. Je ne sais pas où sommes-nous exactement.
Ah oui. J'étais en voyage de noces à Benares. Et je me rappelle cette expérience étonnante. Il y avait un type, un guide, qui nous avait amené sur une barque. On se retrouvait sur le Gange. Et alors, au moment où on passe sur le Gange, on voit les crémations sur la côte, mm-hmm. on voit sur la berge, on voit les gens...
Pour libérer l'âme des défunts.
Voilà, hein, c'est tout ça, on voit les gens qui se lavent, qui pissent, qui chient dans l'eau. En même temps, le guide nous a dit, il faut que vous buviez cette eau et vous serez purifié. Vous n'aurez plus de maladie. Je pense que ceux qui s'en tirent, en effet, ne sont plus malades.
Oui, c'est un miracle. Sinon, pense, oui.
Il y avait des cadavres aussi, les corps mal cuits parce que les gens n'avaient pas assez de bois pour les cuire.
Pour les
crémations. Pour les crémations qui étaient jetées dans l'eau et donc la barque tapait dans des os, les ossements. C'était assez étrange. Et là, le guide, à un moment, nous dit, il fumait un pétard et puis il nous dit, finalement, Bernard, tu m'es sympathique. Alors, je vais te dire un truc qu'on ne peut pas dire aux autres occidentaux. Je vais te donner un conseil. Alors, ça commence par une question. Pourquoi tu es là? Alors je lui dis, je suis là pour visiter. Il fait, et qu'est-ce que tu fais dans la vie? Alors je suis journaliste. Il fait, pourquoi t'es journaliste? Il fait, je suis journaliste pour gagner ma vie. Il fait, pourquoi tu gagnes ta vie? Je fais, je gagne ma vie pour pouvoir payer mon loyer, pour pouvoir manger. Pourquoi tu payes ton loyer et pourquoi tu manges? Il fait, pour être vivant. Pourquoi tu es vivant? Je fais, je sais pas. Tu vois, en fait, tu sais pas pourquoi t'es là et pourquoi tu vis. Tu vis dans un monde dans lequel t'as rien compris. Alors, t'as une chance, t'es à Benares, la ville la plus sacrée du monde. Et moi, je te donne un conseil que ne peuvent pas entendre les autres occidentaux. Profite que t'es là pour te suicider. Si tu te suicides à Benares, t'as tout à gagner. D'abord, tu rentres enfin dans le cycle de réincarnation.
Chouette.
Et tu vas pouvoir démarrer même au plus bas des castes, les parias. Mmh. Mais au moins, tu vas rentrer dans le cycle. Alors que quand tu es en France, dans ce monde barbare à l'ouest, là, t'es rien du tout, tu tournes en rond. Mais ici, t'as une occasion inespérée de pouvoir enfin rentrer en cycle des réincarnations.
Et vous l'avez pas écouté quand même, hein, parce que
non.
Sinon vous ne seriez pas là. Donc...
Au moment où j'ai entendu ça, je me suis dit, c'est vrai, il y a quand même un moment où on doit se poser une question, pourquoi on fait les choses?
Oui, ça oui.
Et j'ai trouvé d'autres réponses. Je crois que je fais les choses d'abord parce que ça m'amuse et parce que ça donne un sens à ma vie, que j'ai envie d'explorer ce monde, j'ai pas envie de me suicider, mais au moins la question a été posée. Et en dehors de ça, l'Inde a été une expérience très étonnante, parce que j'ai découvert une sorte de fatalisme étrange. Par exemple, je me rappelle, on était en pousse-pousse avec ma compagne de l'époque et tout d'un coup, on voit un accident et je voulais m'arrêter pour secourir. Le type fait « Ah non, hors de question de secourir, le type s'est fait accidenter. » Je voyais bien, il est blessé. Elle me dit « Ah non, mais s'il doit mourir, il mourra. Et s'il ne doit pas mourir, il ne mourra pas. » Et je vois les gens l'ont dégagé pour le mettre sur le trottoir et personne ne lui est venu en aide. Il m'a dit « Voilà, c'est son karma. S'il doit crever, il crèvera. » Il y a un rapport à la mort qui est très détendu, peut-être un peu trop détendu.
Oui.
Mais enfin, c'était étrange. Et pour moi, l'Inde a été une expérience très, très forte. J'allais dire un électrochoc. En tout cas, je pensais trouver de la sagesse et tout le côté yoga. J'ai découvert autre chose qui est un rapport à la vie et à la mort qui est décalé par rapport à notre rapport.
C'est totalement différent, bien sûr. On regarde aussi pas loin, d'ailleurs, le Népal. Vous avez fait un trekking en Himalaya aussi. Et vous êtes retrouvé dans la nuit, en pleine montagne.
Oui, alors il y avait écrit trekking de 16h à 17h, donc on est parti à 16h, et puis la nuit tombait, il commençait à être 20h, et puis il n'y avait pas de lune, on marchait avec ma compagne, on marchait sur le bord, enfin il y avait sur le bord de la montagne, c'était en plein été, donc on n'avait pas une tenue d'alpiniste, et au bout d'un moment la nuit était devenue complètement noire, donc il n'y avait plus que la lumière des étoiles, et encore c'était couvert par les nuages, et je me suis retrouvé à marcher dans le noir jusqu'à 1h du matin. Et c'est une sensation très étrange de marcher en montant sur le truc. Et jusqu'au bout, je me disais, qu'est-ce qu'il vaut mieux, faire demi-tour dans le noir ou avancer dans le noir? Et finalement, 1h du matin, on est arrivé dans un endroit extraordinaire. Il y avait juste une lampe, il y avait écrit « The End of the Universe ». Et c'était une pizzeria qui était en haut, ça ne s'invente pas, qui était en haut de ce point de l'Himalaya.
Oui.
Et on est arrivé là avec ma compagne, on était épuisé. Et on s'arrête, et là, il y avait à la table d'à côté deux autres couples qui étaient en face, et il y en a un qui dit en anglais, il fait « Vous êtes d'où ?» Alors il fait « Ben, nous sommes de Sydney, et vous ?»« Ben, nous aussi, on est de Sydney. » »« Et vous êtes de quelle rue ?» Il fait « Ben, nous sommes de la rue Livingstone, et vous ?»« Ben, nous aussi, on est de la rue Livingstone. » « Vous êtes de quel numéro ?» Il fait « 95. »« Ben, nous aussi, on est du 95. » Il fait « Quel étage ?» Il fait « Quatrième. » »« Ah non, nous, on est au troisième. » C'est le genre de situation extraordinaire qui, on peut pas le mettre dans un roman, c'est pas crédible. Mais j'avais assisté à ça. Et puis il y avait aussi, je sais pas, j'ai du temps pour raconter. Je vous la fais très vite. Il y avait, on me disait le guide du routard, et il y avait écrit, si vous arrivez au Népal, si vous avez trouvé l'Inde un tout petit peu, si vous avez trouvé l'Inde sale, vous allez voir, le Népal c'est pire. Donc on prend le meilleur hôtel, et là, dans l'hôtel, on visite une chambre, et il fait voilà votre chambre, et tout le plafond était recouvert de cafards, mais on voyait plus la peinture, le plafond était noir de cafards. Je dis, on préférait une chambre sans cafards. Et on nous amène notre chambre, pareil, c'est rempli
de cafards.
Là, il n'y avait
pas de cafards.
Non, la deuxième, il y avait des cafards. Et après, j'ai vraiment, vous n'avez pas Without Beatles. Et il nous amène à une chambre, il n'y a plus du tout de cafards. Je ne comprenais pas que les cafards aient sauté une chambre. Et puis, en fait, alors que j'étais près du mur, ma compagne me dit, je crois comprendre pourquoi il n'y a pas de cafards, te retourne pas, à gauche, il y a un truc. Je me retourne lentement, et là, je tombe nez à nez avec un rat qui était agrippé au mur et qui me regardait, un gros rat blanc. Okay. Et quand il me voit, il a pris peur et il a foncé dans le matelas. Et le matelas était rempli, c'était un nid de rat. Et on a dormi sur le matelas. Et c'est ces rats qui avaient mangé tous les cafards. Voilà, le lendemain, on a changé de chambre d'hôtel.
Merci beaucoup, Bernard Werber. On vous renvoie donc à ce sixième sommeil. Ce sera au mois d'octobre avec vous. Merci
avec
beaucoup,
plaisir.
Vraiment.
J'espère que ça donnera envie aux gens de rêver mieux.
Ça va faire mieux. Merci à Éric Morin, Julien Chabassu, Linka Negulescu, Marion Philippe, Pierre qui réalise l'émission. Demain, ce sera Jean-Claude, un préhistorien, qui sera à votre place.